Cependant, comme l'instituteur passait devant l'église, monsieur le curé en est sorti et l'a arrêté au passage. C'est un très jeune prêtre fort distingué et qui porte des lunettes cerclées d'or.
Ce que j'ai à vous dire est très grave. Vous avez fait l'autre jour, avant-hier exactement, une leçon sur Jeanne d'Arc.
Oui, oh, ce n'est pas que ce soit très amusant, mais enfin c'est dans le programme.
Bien. À cette occasion, vous avez prononcé, et devant des enfants, les phrases suivantes. Jeanne d'Arc était une petite bergère de Don Rémy. Un jour qu'elle gardait ses moutons, elle crut entendre des voix. C'est bien ce que vous avez dit, n'est-ce pas, monsieur?
C'est très exactement ce que j'ai dit.
Songez-vous à la responsabilité que vous avez prise lorsque vous avez dit « cru d'entendre ».
Ah, je songe que j'ai justement évité de prendre une responsabilité.
Comment?
J'ai dit que Jeanne d'Arc crut entendre des voix, c'est-à-dire qu'en ce qui la concerne, elle les entendait peut-être fort clairement, mais en ce qui me concerne, je n'en sais rien.
Comment vous n'en savez rien?
Mais ma foi non, monsieur le curé, je n'y étais pas.
Comment vous n'y étiez pas?
En 1431, je n'étais même pas né.
Oh, n'essayez pas de vous en tirer par une pirouette, monsieur. Vous n'avez pas le droit. Vous n'avez pas le droit de dire crut entendre des voix. Vous n'avez pas le droit de dire un fait historique. Vous devez dire Jeanne d'Arc entendit des voix.
Oh, mais vous savez qu'il est très dangereux d'affirmer des choses pareilles, même s'il s'agit d'un fait historique. Il me semble me rappeler que lorsque Jeanne d'Arc, devant un tribunal présidé par un évêque qui s'appelait Cochon, déclara qu'elle avait entendu des voix, ce cochon-là la condamna à être brûlée vive, ce qui fut fait à Rouen, sur une place du marché. Et comme malgré ses voix, elle était combustible, la pauvre bergère en mourut.
Réponse et langage bien digne d'un abonné du Petit Provençal. Je vois, monsieur, qu'il n'y a rien à attendre d'un esprit aussi grossier, aussi borné que le vôtre. Je regrette d'avoir engagé cette conversation inutile et qui m'a révélé une profondeur de mauvaise foi que je n'aurais jamais osé imaginer.
En somme, vous êtes furieux parce que j'ai parlé de Jeanne d'Arc qui, selon vous, vous appartient. Mais dites-moi, monsieur le curé, vous aussi, vous arrivez de piétiner mes plates-bandes.
Comment?
Ainsi, vous avez dit aux enfants du catéchisme que je me trompais et qu'en histoire naturelle, il n'y avait pas trois règnes, mais qu'il y avait quatre règnes.
Mais parfaitement, le règne végétal, le règne minéral, le règne animal et le règne humain, ce qui est scientifiquement démontré.
Le scientifiquement démontré que le règne humain est une absurdité.
Vous vous considérez donc comme un animal?
Sans aucun doute.
Je vous crois trop savant pour ne pas admettre qu'en ce qui vous concerne, vous avez certainement raison. Permettez donc que je me retire sans vous saluer, car je ne salue pas les animaux.
Oh, mais qu'est-ce que vous croyez, cette dite espèce de brigadillo?
Va dire trop, Satanas!
Va te cacher, pendu!
Monsieur le curé entre à grands pas dans le jardin de son presbytère. L'instituteur hausse les épaules et s'en va de son côté. Devant la petite boulangerie, plusieurs personnes semblent attendre. Il y a le boucher qui est immense, avec des cheveux frisés sur un front bas et de petits yeux dans un vaste visage. Il porte un tablier d'un blanc sale et taché de sang. Il y a Céleste, la servante de monsieur le curé. Elle est naturellement d'âge canonique, dodue et distinguée. Puis la grosse Miette et mademoiselle Angèle. Très maigre, très grande, c'est elle qui dirige les enfants de Marie et qui tient l'harmonium à l'église. Auprès d'elle, la très vieille tante Fine, qui a une jolie petite barbe blanche, deux ou trois jeunes filles et cinq ou six enfants. Casimir vient à eux et parle au boucher.
Alors, le pain est beau, ça se prépare. L'instituteur est allé jeter un coup d'œil sur la fournée.
L'instituteur sort de la boulangerie. Le vieux Maillefer, le pêcheur de truites, s'avance vers lui.
Alors, qu'est-ce que vous en dites?
Eh bien, mon cher, je ne suis pas boulanger, mais enfin, il me semble que cet homme connaît parfaitement son...
J'ai sorti du four.
Dans 10 minutes.
Qui sait si le four a bon?
Le boulanger paraît sur la porte.
Et pourquoi je le ferais mauvais?
On ne veut pas dire que tu le feras mauvais, non. Seulement, tu comprends, il y a peine et peine.
Celui qui était avant toi, l'ange. Oui, celui qui s'est pendu dans la cave.
Oh, surtout, ne parle pas de ça devant ma femme, hein. Si elle savait que j'ai pris la suite d'un boulanger qui s'est pendu, elle serait effrayée et elle ne voulait pas rester. Alors, motus, c'est...
On a compris. Motus.
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 Le papé, qui est un nain de 74 ans, un peu hagard, regarde anxieusement autour de lui.
Mais, alors, qu'est-ce qu'il faisait, le boulanger, quand il se pendait pas?
Ben, il faisait du pain.
Oui. Seulement, ce pain n'était jamais pareil.
Oui, ah. Des fois très bon, des fois pas mangeable.
Surtout le dimanche, parce que le samedi, il se prenait une cuite à l'anis. Alors, sur les coups de minuit, quand il pétrissait, il savait plus ce qu'il faisait.
Une fois, dans un pain, on a trouvé un bout de cigare.
Et une autre fois, un dimanche matin, le pain avait le goût de l'anis.
Les enfants se sont régalés, hein.
Et vous supportiez ça, vous?
Et qu'est-ce que nous pouvions y faire?
Vous allez chercher du pain ailleurs.
Mais nous l'avons fait pendant longtemps.
Tu te rends compte, à Vos, 12 kilomètres et encore par des chemins de montagne. Alors on en prenait pour toute la semaine.
Mais au bout de 4 ou 5 jours, le pain était tellement dur qu'on s'y cassait les dents dessus.
Et on revenait chez l'ange parce que s'il le faisait pas toujours bon, il le faisait toujours ici.
Mais moi, où je le fais?
Au fond, il a raison, voyons, attendons avant de juger.
Mademoiselle Angèle s'est glissée au premier rang.
Où étiez-vous, boulanger, avant de venir ici?
Moi, madame.
Mademoiselle.
Pardon, mademoiselle, j'étais à Valençol.
Et puis à Bannon. Oui, et vous savez, il y avait de la concurrence. Nous étions trois boulangers. C'était une vraie petite ville, c'était pas un village comme ici. Et puis il y avait des connaisseurs.
Oui, hein. C'est parce que les connaisseurs t'ont plus voulu que tu es venu ici.
Mais c'est à cause de ma femme, elle craint le froid. Alors là-bas, c'est trop haut, ici, c'est plus bas. Et bien, quand je suis parti, les connaisseurs m'ont dit, boulanger, nous te regretterons.
Tout ça, ça n'a aucun intérêt. Le principal, c'est que tu nous fasses du bon pain. Et pourvu qu'il soit aussi beau que ta femme, eh bien, ça nous suffira.
Oh, certainement.
Aussi beau que ma femme. Il est rigolo, celui-là.
Du pain aussi beau que ma femme, mais je sais pas si on l'aura jamais fait, tu sais.
Tu as raison, boulanger.
Elle est belle, ma femme, hein. Dis-moi, Yossi, elle est belle, ma femme, hein.
Ah, ça, oui. Ça, on peut le dire. Ouais.
Dites, monsieur instituteur. C'est pas vrai qu'elle est belle, ma femme.
Mon cher, si elle essayait tout à coup la nuit dans une ruelle obscure de m'embrasser fortement sur la bouche, ben, je ne porterais pas plainte.
Ça t'avoue, mais pas à moi.
Le boulanger est ravi. Il rit de plaisir.
Si je vous fais du pain, la moitié aussi beau que ma femme, ça vous suffit?
Je comprends.
Pour mon goût personnel, j'aimerais mieux du pain qui fût aussi beau que du pain. Car la beauté d'une femme n'est qu'une parure éphémère qui se flétrit comme une fleur.
Et ça fait plaisir aux vieilles bêtes raves qui ne risquent pas de se flétrir. Elle est belle, va ta femme, vous l'avez.
Je comprends qu'elle est belle.
Mais ça me fait plaisir que vous la trouviez belle. Vous savez encore, vous ne l'avez pas vue avec le costume de dimanche. Ou alors la nuit, le soir, quand elle se laisse habiller pour se coucher à 16h.
Et mal, le pain est prêt.
Et avec ça, elle est modeste. Elle ne veut pas qu'on parle d'elle. Le pain.
On le suit.
Voilà ce monsieur d'avant.
La boulangère est assise au comptoir. Elle est beaucoup plus jeune que son mari. C'est une brune aux yeux brillants, la bouche charnue, la poitrine haute. Elle est bien coiffée et vêtue comme une dame de la ville. Elle reste immobile, la lèvre dédaigneuse et le regard lointain. Le boulanger traverse la boutique et descend au four, qui est quatre marches plus bas. Il ouvre la porte du four, y plonge la lampe baladeuse, regarde un instant sa fournée. Puis il referme la porte.
Oui. Une minute de plus, ça ne fera pas de mal, allez.
Ah, voilà, monsieur le marquis.
Ah.
Pardon.
En effet, monsieur le marquis vient d'entrer. Il a 50 ans, il est extrêmement sympathique et distingué, malgré son ventre important. Il parle d'abondance, avec beaucoup de charme. Il est visible qu'il a commandé à l'escadron.
Bonjour, madame la boulangère. Je suis madame le marquis de Venel, chef d'escadron à la retraite, mais paillard en activité. C'est vous dire que je suis très sensible à l'éclat de votre visage et que je vous suis profondément reconnaissant de bien vouloir être si père. Ceci dit, je vous présente mon berger. Approche.
Le berger s'avance. C'est un grand beau garçon de type italien. Très brun, les dents très blanches, les cheveux frisés. Il paraît timide et baisse les yeux.
Il se nomme Dominique. Ce Dominique viendra le mercredi et le samedi, muni du sac que vous voyez, pour prendre 30 pains. Il faudra donc, boulanger, que tu me fasses ces 30 pains deux fois par semaine, en plus de ta tournée quotidienne. Et le samedi, si tu avais une douzaine de croissants ou de brioches, j'espère que cette déesse ne verra pas d'inconvénient à les mettre dans mon sac.
Le boulanger s'incline respectueusement.
Oui, monsieur.
Monsieur le marquis.
Bien, monsieur le marquis.
Si je te parle de croissants et de brioches, c'est que dans mon château, qui n'est en réalité qu'une ferme, mais castellisé par ma seule présence, j'héberge en général trois ou quatre dames de petite vertu que j'entretiens dans un luxe rustique pour le plaisir de mes vieux jours et le dévergondage de mes bergers.
Parfaitement, monsieur le marquis.
Ah non, pas parfaitement. Ce n'est pas l'avis du curé. Enfin, pour ce qui est de ta note, il te la réglera tous les samedis. Bien. Ah, détail pratique. Comme pour donner 30 pains, il faut au moins 10 minutes. Dominique ne viendra qu'à midi, pour ne pas faire attendre vos clients. Mais pour aujourd'hui, c'est lui qui va attendre. Dominique, mets-toi dans ce coin.
Le berger obéit. La boulangère le regarde à la dérobée.
Ah, monsieur le marquis, je crois que ça y est.
Le boulanger prend au-dessus de sa tête la pelle à long manche. Il ouvre le four et commence à ramener de longs pains dorés. Le marquis s'est approché.
Ça sent bon.
Allez.
Et il est bien cuit.
Tout à coup, un gros chat noir surgit d'un panier et va se frotter contre le mollet du boulanger.
Oh, qu'il est joli, ce chat! Il est à toi?
Eh oui, c'est Pompon. Vous savez, monsieur le marquis d'Azur Boulangerie, c'est nécessaire, ça. Parce qu'avec les rails, vous mangerez tout le bénéfice. Alors, Pompon et sa femme Pomponette, ils m'économisent au moins 10 kilos de farine par jour.
Ah, mais tu as la chatte aussi.
Oui, enfin, c'est-à-dire que je l'avais, mais depuis 3 jours, elle a disparu.
Attention qu'on ne t'en fasse pas un civet.
Oh, qu'une sorte. Qu'est-ce que tu racontes là? Mais c'est pas possible, ça.
Oh, mais non, boulanger. Ici, il y a tellement de lièvres qu'on ne sait plus comment faire. On ne te mangera pas ta chatte.
Oh, d'ailleurs, je sais pourquoi elle est partie, vous savez. Oui, cette nuit, sur le toit, j'ai entendu ce qu'elle disait. Mais elle reviendra quand ça lui aura passé.
Ah, bien.
Le marquis se dispose à partir.
Comment t'appelles-tu?
Castagnier aimable.
Oh, c'est charmant. Le poète a dit « Et mi castané sont molestes, et précis copia lactis ». Mais ça n'a aucune importance pour aujourd'hui.
Tant mieux.
Pardon.
En passant devant la boulangère, il salue fort galamment.
Madame, le pain touché par vos belles mains sera reçu chez moi comme un présent. Au revoir, aimable boulanger.
Au revoir, monsieur Marc.
Au revoir. Laissez-moi passer, je vous prie.
C'est distingué, ce marquis, hein. Depuis 30 kilos, hein, tu vois.
Nous suivons le marquis dans la rue, où il rencontre monsieur le curé, qui lit son bréviaire.
Bonjour, monsieur le curé.
Bonjour, monsieur le marquis.
Eh bien, monsieur le curé, nous avons un boulanger. Et de plus, il s'appelle Aimable.
Saint Aimable, ou Saint Aimable, fut un grand saint qui vécut aux environs de l'an 742. Il fut remarquable par l'austérité de ses mœurs. Et s'il avait été curé de notre village, il n'eût pas toléré que l'un de ses paroissiens vécût en compagnie de plusieurs femmes comme un véritable mormon.
Oh, monsieur le curé, ce sont mes nièces.
Vous oubliez que je suis votre confesseur.
Si vous ne l'oubliez pas vous aussi, toute conversation mondaine devient impossible. Je dis à tout le monde que ce sont mes nièces.
Mais personne ne le croit. Et l'exemple que vous donnez est très dangereux.
Non, monsieur le curé, non. La débauche n'est pas un péché gratuit. Les exemples dangereux, ce sont les exemples qui sont à la portée de toutes les bourses. Les péchés qui exigent des rentes ne peuvent se répandre que parmi les rentiers. Or, nous n'avons ici que des paysans. Et contre les dangers de mon exemple, la pauvreté leur tient lieu de vertu.
Affreux blasphème.
Dans le magasin, la boulangère pèse les pains.
Il est beau, hein, Casimir?
Rien que de voir ça, ça me donne faim. Oh, pardon, Céleste. Ne faisons pas attendre la servante de monsieur le curé.
Merci, Casimir. Je me languissais de le toucher, ce bon pain.
La boulangère pèse le pain de Céleste, mais elle ne regarde pas la balance. Elle regarde le berger, qui est debout contre le mur. Le berger la regarde aussi, immobile et muet. Il attend. Peu à peu, le magasin se vide. Au fond, là-bas, dans le fournil, on ne voit que le gros derrière du boulanger qui tire les pains du four. La boulangère descend du comptoir. Elle s'approche du berger qu'elle regarde bien en face.
Berger, viens ici. On voit ton sac.
Le berger déroule le sac et le tient ouvert à deux mains à la hauteur de sa ceinture.
Deux.
La boulangère plonge les grands pains jusqu'au fond du sac et chaque fois en se relevant, ses cheveux effleurent le visage du berger qui respire l'odeur de la femme.